Frères et sœurs bien-aimés, on ne comprend la portée d'un miracle, quel qu'il soit, qu'à travers la vocation de salut que le Christ est venu apporter à l'humanité. Et singulièrement lorsqu'il s'agit de lépreux. Les lépreux, comme vous le savez, eh bien, sonnaient la cloche à leur approche parce qu'on pensait que c'était contagieux. Et donc ces lépreux étaient isolés, ne pouvaient évidemment pas avoir une vie spirituelle, ne pouvaient pas aller au temple, offrir des sacrifices, ne pouvaient pas se marier, ne pouvaient pas travailler, ils vivaient de mendicité. Et donc lorsque ce groupe de lépreux s'approche de Jésus, c'est vraiment avec une demande instante, c'est une demande très forte. Jésus, Maître, prends pitié de nous. Parce qu'ils savaient que de leur guérison dépendrait beaucoup de choses. Dépendrait le fait qu'ils puissent retourner au temple, qu'ils puissent former une famille, qu'ils puissent avoir une activité professionnelle, qu'ils puissent être intégrés à l'intérieur de la société, alors que jusqu'à présent, avec leur cloche, eh bien, ils agitaient leur cloche pour que les autres et peur, et puis s'échappe, et puis ne soit pas contagié. Au fond, Jésus, en redonnant cette purification, en faisant que ces lépreux puissent être guéris, leur donne un salut complet. Un salut complet qui touche la vie de famille, qui touche la vie spirituelle, qui touche la vie professionnelle. C'est une nouvelle vie qui commence pour eux. Et peut-être nous ne prenons pas assez conscience de ce que cela veut dire que quand un lépreux puisse être à nouveau purifié. Donc, c'est un grand don que ces 10 lépreux ont reçu de la part du Seigneur, et le Seigneur s'interroge, tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés, les 9 autres où sont-ils? Pourtant, ils ont reçu grâce sur grâce. Une vie nouvelle va changer. Il y a un avant et un après. Rendre grâce n'est pas spontané. Et je pense qu'il faut en prendre conscience. Pour vous, chère communauté des Béatitudes, vous avez cette vocation à la louange. Et je suis toujours très admiratif de voir des hommes et des femmes déjà pétris d'années qui, les mains en l'air, parce que c'est aussi la tradition de la communauté, si j'ai bien compris, comme ça, papa en l'air, comme ça, rendre grâce au Seigneur. Mais c'est très beau, et je suis très édifié. Quand on est jeune, jeune converti, peut-être c'est plus spontané. L'affectif prend le relais, mais quand on a 60, 70 ans et plus, c'est peut-être pas si spontané que ça de rendre grâce. C'est un acte de foi. Et je trouve très beau justement que dans votre vocation de communauté, il y ait cette dimension d'action de grâce, comme dans tout le mouvement charismatique et les communautés issues du mouvement charismatique, qui rappellent à l'Église, au fond, quelque chose de très central. Nous sommes là pour accomplir cette action de grâce, cette louange, parce que nous avons nous-mêmes reçu tant de dons, mais ce n'est pas spontané. Un seul est retourné. Les autres n'ont pas pris conscience, ou alors un peu enivrés par la nouvelle vie qui s'offrait à eux, eh bien ils sont partis. Est-ce qu'ils ont été seulement voir le prêtre? On n'en sait rien non plus. Ils n'ont pas... Ils ne sont pas revenus sur leurs pas. J'aimerais bien insister sur cette partie de revenir sur ses pas. Pour rendre grâce, il y a comme un retour en soi-même, un peu comme le fils prodigue. Le fils prodigue qui retourne en lui-même, qui, ça veut le verbe en grec, métanoïa, qui fait une conversion. Il rentre en lui-même pour prendre conscience de la grâce qu'il avait lorsqu'il était dans la maison du Père. Et la louange, c'est ça. La louange, c'est d'abord une dimension contemplative. On rentre en soi-même pour prendre conscience à quel point on a reçu grâce sur grâce, à quel point on a été béni par le Seigneur, à quel point notre vie, elle est dans l'amour du Seigneur, et parce qu'elle est dans l'amour du Seigneur, elle s'ouvre à une plénitude et à une fécondité. C'est étonnant, peut-être vous l'avez noté dans la première lecture, que le cher Naaman, général syrien, c'est-à-dire païen, c'est un païen aussi, il voulait rembourser, quelque part payer le prophète, l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu dit non, je ne recevrai rien, parce que la grâce, par définition, elle est gratuite. Permets que ton serviteur emporte de la terre de ce pays. Pourquoi est-ce qu'il a demandé ça? Parce que la terre, c'est la condition sine qua non d'une fécondité. Et au fond, dans cette terre qu'il transportera dans son pays, est-ce qu'il y plantera quelque chose? Est-ce qu'il y plantera un arbre qui lui fera faire mémoire des grâces reçues? Parce qu'il s'agit bien de ça, on a souvent tendance à oublier. Et on sait bien, la mémoire, c'est cette capacité d'oublier. Eh bien, on a besoin parfois de signes visibles qui nous font dire « Oui, j'ai reçu quelque chose, comme c'est cette terre emportée de la Terre Sainte pour emmener jusqu'en Syrie. » Voilà, c'est cette fécondité que le Seigneur permet lorsqu'il agit dans nos vies. Et de ce point de vue-là, c'est vraiment très éloquent pour chacun d'entre nous. La fécondité de nos vies, le fait de porter du fruit, c'est ça le centre de notre vie. À quoi ça sert de vivre? Porter du fruit. C'est ça la grande question de nos vies. Est-ce que ma vie est inutile ou est-ce que ma vie, d'une manière ou d'une autre, elle est féconde? Et nous écoutons la parole de Jésus qui nous dit « Je vous ai choisi pour que vous alliez, que vous portiez un fruit qui demeure ». Donc il y a une volonté de fécondité sur chacune de nos vies. Mais il y a comme une condition à cette fécondité. De faire mémoire, de rentrer en soi-même, de revenir sur ses pas et de rentrer dans la louange. Parce que sans cela, eh bien, on enchaîne les différentes actions et on voit bien que notre monde nous pousse à ça. Le monde agit par distraction, alors que Dieu agit par attraction. Et on voit bien que dans nos vies, on enchaîne une retraite, et puis une vie professionnelle, ou une vie scolaire, etc., et puis encore autre chose, et puis un week-end sportif, et puis voilà. On enchaîne des choses, sans revenir sur nos pas, sans faire mémoire, sans rendre grâce. Et si vous, vous êtes dans un temps de retraite, ici, c'est précisément pour faire ces différentes étapes et suivre ces différentes étapes à la fois d'une vie intérieure, rentrer en soi-même, revenir sur soi-même, revenir sur le cœur de sa vie, faire mémoire des grâces reçues, les nommer et en même temps rendre gloire à celui qui est auteur de ces grâces. Nous, lors de cette petite retraite auprès des couples, je posais la question aux couples qui sont encore en discernement et qui se demandaient, ben, voilà, est-ce qu'on va cheminer vers le mariage? Est-ce qu'on va arrêter? Qu'est-ce qu'on va faire? J'aurais posé cette question, est-ce que vous voyez l'autre comme un don de Dieu? Est-ce que vous voyez l'autre comme une grâce pour votre vie? Parce que c'est capital comme question. Est-ce que vous voyez l'autre comme un lieu de fécondité de votre vie? Fécondité par les enfants, mais bien au-delà des enfants. On le sait très bien, même un couple qui a des enfants a d'autres fécondités que leur propre progéniture. Pour cela, il faut rentrer en soi-même, il faut revenir en arrière, il faut revenir sur ses pas, et puis reprendre conscience de la gloire de Dieu. C'est à cette condition-là, c'est-à-dire cette condition d'une vie contemplative, d'une certaine manière, que l'on peut prendre conscience des grâces. Sinon, oui, j'ai reçu des grâces. On voit des tas de gens qui ont reçu des tas de grâces dans leur vie. Puis finalement, ils ont oublié le Seigneur. Ils ont oublié le Seigneur. Parce que, un peu comme le semeur qui est sorti pour semer, vous connaissez bien la parabole, eh bien, il y a des graines qui sont tombées au bord du chemin, et puis les herbes ont étouffé, les soucis du monde, et parce qu'ils n'ont peu de racines, eh bien voilà, ils passent à autre chose. C'était une parenthèse dans leur vie, c'était pas une terre, ces grâces, dans lesquelles ils pouvaient semer une semence de vie éternelle. La grâce nous engage. La grâce, d'une certaine manière, nous stimule. Ce qu'on a reçu, enfant, jeune, adulte, dans le grand âge, ce que l'on a reçu nous engage. Ce que l'on a reçu, d'une manière ou d'une autre, oriente notre vie. Et il est bon aujourd'hui, en ce dimanche, où nous faisons mémoire de la résurrection du Seigneur, où nous entendons précisément cette parabole, ce miracle, de faire conscience, de prendre mémoire, de faire mémoire de ce que nous avons pu avoir accueilli dans nos vies et de ne pas zapper, parce que, au fond, on le sait bien, on est à l'heure du zapping. Un train en cache un autre, puis un autre, puis ensuite un autre, etc. C'est pas comme ça qu'on construit sa vie. On construit sa vie en sédimentant. On sédimente. Ça veut dire quoi, sédimenter, hein, quand ceux qui ont fait un peu de géologie savent bien ce que sont les sédiments, etc. C'est qu'une couche ensuite recouvre une autre, etc. et fait que progressivement, il y a une fermeté, il y a une solidité de la terre qui se crée. Le Seigneur nous appelle à sédimenter, c'est-à-dire à faire que ces grâces reçues, elles puissent être vraiment profondément en nous et que lorsqu'on entreprend autre chose, eh bien, on fasse mémoire. On ne chasse pas la grâce reçue, non, on s'appuie sur elle et on construit sa vie comme ça. On construit sa vie précisément en prenant conscience des choses, en les goûtant et ensuite en rajoutant. Et c'est comme ça, et je vois par moi qui ai beaucoup de contact avec les jeunes et singulièrement les jeunes professionnels, je les incite beaucoup justement à fortifier leur vie en recevant grâce sur grâce et en développant, en se formant. Tout ça aide à la construction de la personne humaine, à la solidité de la personne humaine, comme les sédiments posés les uns sur les autres aident à la solidité de la terre. Oui, frères et sœurs, je crois que c'est pour nous cette invitation toute simple, mais forte, à être des hommes et des femmes où la vie contemplative, et quel que soit l'âge, la vie contemplative peut être d'actualité, où la vie contemplative a son importance, où on puisse retourner sur nos pas, revisiter, relire, comme on le dit dans la grande tradition ignatienne, relire sa vie et de voir à quel point le Seigneur a été présent dans tel aspect, dans tel autre, dans telle rencontre, dans telle épreuve. Et du coup, il y a quelque chose en nous qui se fortifie. Il y a une personnalité qui prend corps. Et de là viendra la fécondité de nos vies, c'est-à-dire que parce qu'on a une personnalité qui a pu se construire et grâce sur grâce a pu accumuler puis faire sienne ces grâces reçues, c'est cette personnalité qui pourra porter des autres. Parce que quand est-ce qu'on devient adulte ? On devient adulte quand on commence à porter les autres. Mais faut-il encore soi-même être bien construit ? Faut-il avoir cette terre dans laquelle nous pouvons planter notre vie et qu'elle puisse porter du fruit ? Alors demandons au Seigneur que nous puissions, à travers cet évangile, reprendre conscience de ce que nous avons reçu. Juste refaire mémoire pendant ce temps de silence. Refaire mémoire de sa vocation pour vous qui êtes consacrés. Refaire mémoire de votre appel au baptême pour vous, chers jeunes. Vous avez été appelés par le Seigneur, par le baptême. Et vous, chers couples, déjà mariés ou en discernement, refaire mémoire des grâces reçues, de la rencontre reçue, pour que nous puissions rendre gloire à un Dieu qui nous appelle des ténèbres à son admirable lumière.